Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large, très large, avec le journal des médias, le journal de la culture, des conseils musique et jeux vidéo, avec du nouveau chez Mario. Et bien on l'a reconnu, et notre infomédia. Oui, gentil le lion, gentil. C'est que les animaux font de plus en plus d'audience à la télé, et pas seulement sur les chaînes spécialisées ou les émissions pour enfants, mais également sur les chaînes généralistes ou même Arte, qui diffuse 2 documentaires par jour. Sa responsable sera avec nous, ainsi qu'un producteur de films d'animaux ou animaliers nous dira comment il faut dire. Benoît Delépine ensuite, du vin, du H et du vin. L'information, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. Vous avez reconnu Groland, l'émission culte de Canal+, dans laquelle Delépine incarne le grand reporter Michael Kull. Il sera avec nous à jeun, enfin j'espère. Et puis Laurent Deutsch, auteur des best-sellers Métronome et Hexagone, il propose Romanesque, livre qui a déjà dépassé les 100 000 ventes et qui devient un spectacle sur scène. Pour la première fois, Deutsch joue ses propres textes à lui, la mitraillette à parole. On va essayer, nous, d'en placer une. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Et comme tous les jours, on démarre avec Pierre Desereaux de Pure Média. Bonjour Pierre.
Bonjour Philippe.
Les chiffres, les audiences, qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télé?
Alors hier, c'est TF1 qui s'est classé en tête des audiences de la soirée. La Une qui a dominé la concurrence avec de nouveaux épisodes de la saison 3 de la série américaine Good Doctor, qui occupe, comme vous le savez, la case du mercredi soir depuis
bien sûr
la rentrée.
Ouais.
3 900 000 Français ont passé la soirée devant la série portée par Freddie Highmore. 18% du public, c'est un score en baisse sur une semaine qui perd quasiment 300 000 téléspectateurs. Alors France 2 est deuxième, les nouvelles sont meilleures du côté de France 2 avec la saison 5 de sa série française Nina, là aussi une série médicale. Après son retour moyen la semaine dernière, Nina a rassemblé hier 3 millions de fidèles, 13,9% de part d'audience. Là, c'est un score en hausse sur une semaine, quasiment 200 000 téléspectateurs de plus.
Si on additionne les deux, ça fait quand même presque 7 millions devant des histoires de médecins et de malades.
Oui, c'est ça, c'est vrai. M6 est troisième avec pas du tout du médical, mais c'était un nouvel épisode, le 10e du meilleur pâtissier.
Ouais, attendez au 20e gâteau. Si vous n'allez pas aux urgences.
On est encore au concours de gâteaux animé par Julia Vignali, une soirée qui avait pour thème la vie en rose et qui était toujours joyeusement orchestrée par les inséparables Cyril Lignac et Mercotte. 2 700 000 gourmands ont suivi le meilleur pâtissier, 14,1% de part d'audience. Là, c'est un score qui est en hausse sur une semaine, quasiment 200 000 téléspectateurs de plus. Enfin, au pied du podium, c'est France 3, la 3, qui proposait un nouveau numéro de son magazine patrimonial des racines et des ailes, toujours animé par Carole Gessler. Un numéro spécial intitulé « Pour que vive Notre-Dame », avec notamment un reportage au cœur du chantier de reconstruction de la cathédrale parisienne. Une thématique qui a passionné 2 300 000 personnes, 10,8% du public. Et c'est un bon score, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le record de saison de Des Racines et des Ailes.
Le précédent, c'était 2 millions, hein, je le vois sur la feuille que vous m'avez donnée, je ne le savais pas de mémoire. Hein.
Et du côté des autres chaînes, France 4, personne ne dépasse le million, mais France 4 s'en approche avec le film « Tué n'est pas joué » de John Glenn, 940 000 téléspectateurs. Enfin, sur d'autres chaînes encore, il y avait une bataille de magazines.
Attendez, il y a même une bataille d'enquête.
Une bataille d'enquête.
Alors attendez,
voilà,
je vais dire les titres, vous allez donner les chiffres. Il y avait enquête sous haute tension, 90 enquêtes et enquête criminelle. Donc si t'es sûr de tomber sur la bonne, c'est que t'es très fort.
Ah là, il y avait le choix. Et c'est W9, pas avec le plus joyeux, qui s'en sort le mieux, avec 750 000 téléspectateurs devant enquête criminelle sur le fait divers, l'affaire Manchez. Enquête sous haute tension sur C8 avec Carole Rousseau qui s'intéresse à la face sombre de Paris. Là, ce sont 600 000 téléspectateurs. Et enfin, 90 enquêtes sur TMC avec Tatiana Silva. Le thème, c'était les vols en série de voitures, bijoux et animaux de compagnie. Et là, ça a passionné 500 000 personnes.
Merci beaucoup. Et enquête criminelle, c'est qui était arrivé en tête, c'était avec Nathalie Renoux. Merci beaucoup, Pierre. À demain.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour, Cyril Lacarrière.
Bonjour, Philippe Vandel. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Avec vous, on part faire le tour de l'actu des médias. Par quoi vous commencez? C'est quoi le sommaire?
Le million pour C8, la traque d'Al-Baghdadi, Benalla, format brut, et pendant que Facebook fait le ménage, Disney engrange les abonnés.
Cyril, c'est un sujet dont nous parlions hier avec Roch-Olivier Maistre, le président du CSA, et la sanction est tombée, officielle. Le CSA va devoir passer à la caisse.
1 100 000 euros, voilà la somme que le régulateur de l'audiovisuel va devoir rembourser à C8. Ainsi en a décidé hier le Conseil d'État. Une amende qui vient compenser l'annulation d'une sanction prise en juin 2017, peu plus de 2 ans déjà, à l'encontre de C8. À l'époque, le CSA avait décidé de frapper la chaîne du groupe Canal au portefeuille à cause d'un sketch où Cyril Hanouna avait faussement fait croire à Mathieu Delormeau, son chroniqueur, qu'il avait tué quelqu'un. Le CSA, à l'époque, avait estimé qu'en diffusant cette séquence, C8 avait, je cite, « gravement méconnu son obligation de faire preuve de retenue dans la diffusion d'images susceptibles d'humilier des personnes ».
Mais donc ce n'est pas le point de vue du Conseil d'État.
En effet, les magistrats estiment que Delormeau, je cite à nouveau, « n'avait pas été montré sous un jour dégradant, humiliant ou attentatoire à sa dignité ». Résultat, la décision du CSA de priver l'émission « Touche pas à mon poste de publicité » durant une semaine a donc été annulée et le CSA doit verser 1 100 000 euros, une somme importante mais 4 fois moindre quand même que celle que réclamait C8. Et pour être complet sur le dossier, Canal+, à qui appartient C8, avait également fait appel de 2 autres sanctions du CSA, une amende de 3 millions d'euros et 2 semaines sans pub pour 2 autres séquences de l'émission de Cyril Hanouna, cette fois sans succès. D'ailleurs, C8 avait de nouveau réclamé un dédommagement hier auprès du Conseil d'État pour l'interdiction de la pub sur son antenne, une demande de nouveau rejetée.
Voilà. Il y a une question que je me pose, merci Cyril, c'est est-ce que le CSA a dans ses caisses 1 100 000 euros? Vous pouvez nous donner l'info demain?
En tout cas, je sais qu'ils ont provisionné cette somme en vue de cette possible sanction.
Même pas la peine d'attendre demain, on a l'info tout de suite. Cyril, un documentaire exceptionnel ce soir dans Envoyé spécial.
Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
Abu Bakr al-Baghdadi est mort et c'est le président américain qui l'avait fièrement annoncé le 27 octobre dernier. Et c'est sur la traque qui a permis d'éliminer le chef du groupe terroriste État islamique qu'ont enquêté la journaliste Sophia Amara et son cadreur Christophe Barrère pour Envoyé spécial. Un tournage qu'on imagine forcément extrêmement compliqué. Oui. Nous avons demandé à Sophia Amara comment on fait pour réaliser un documentaire sur la traque ultra secrète d'un homme qu'on n'a jamais vu, ou presque. Alors vous nous excuserez pour la qualité du son, mais nous avons joint la journaliste ce matin, alors qu'elle est au Tchad, elle est interrogée par Alexandre Omar.
Ça fait plusieurs années que je le traque, pour ainsi dire, rencontrer sa femme, rencontrer des proches de Abu Bakr al-Baghdadi, des gens qui ont connu l'homme quand il était enfant, puis adolescent, puis quand il est devenu djihadiste. Et donc, par conséquent, ça aide.
Pour ce film, Sophia Amara et Christophe Barrère ont eu un accès exceptionnel auprès des Faucons, ces soldats d'élite irakiens qu'ils ont pu suivre durant plusieurs semaines. Je vous propose d'écouter un petit extrait du reportage diffusé ce soir.
Sa famille était dans le camp de prisonniers d'Alol en Syrie. Il a réussi à les en sortir. Ils ont traversé la frontière syrienne et sont revenus en Irak. Il s'est installé ici pour constituer une cellule à Kirkouk.
Une cellule dormante ?
Une cellule active, pas dormante. Ça fait 1 mois qu'il a commencé à travailler ici. On le surveillait. Dans quelques jours, on aura démantelé toute la cellule à Kirkouk.
Une belle prise. Car l'homme livrera par la suite les noms de tous ses complices. Des cellules de l'organisation État islamique comme celle-là, les Faucons en démantèlent tous les jours à travers l'Irak. C'est notamment grâce à leur travail d'investigation que quelques semaines plus tard, le chef suprême Abu Bakr al-Baghdadi est éliminé.
C'est donc d'un accès très privilégié qu'ont bénéficié les journalistes d'Envoyé spécial. Sophia Amara, la journaliste, nous explique comment travaillent ces faucons irakiens.
C'est une cellule secrète. Ils n'ont pas vocation à travailler avec les médias. Ensuite, parce qu'ils ont accepté que nous soyons avec eux en mission, mais que nous dévoilions une partie de leur travail, la façon dont ils traquent Daesh. Vous verrez comment parfois ils usent de ruses, de stratagèmes complètement inattendus pour faire face à ce mouvement terroriste, à ces cellules et à ces actions qui sont évidemment des actions terroristes aujourd'hui encore.
Al-Baghdadi, les secrets d'une traque, c'est ce soir dans Envoyé spécial sur France 2 à partir de 21h10.
Il est partout, Alexandre Benalla, pour la promo de son livre. Et on en parle même ici ce matin dans Culture Média.
On en parle parce qu'après avoir fait le tour des vieux médias, l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron poursuit sa promotion sur les nouveaux médias. Le voici donc chez nos confrères de Brut.
Brut, dont on recevait ici même le cofondateur Renaud Levenkim la semaine dernière.
Et c'est donc à leur tour de recevoir Alexandre Benalla pour une interview menée par le journaliste Karim Rissouli. Un entretien enregistré mardi avant-hier, dans lequel on fait à nouveau le tour de ce qui est devenu l'affaire Benalla. Et puisque désormais le jeune homme a un avis sur tout, Karim Rissouli lui demande même ce qu'il pense de son ancien patron à la tête de la France.
Vous qui le connaissez bien, est-ce que vous le trouvez bon en ce moment, le président de la République? Est-ce qu'il ressemble à ce que vous avez connu? Ou est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il fait des erreurs? Comment vous le trouvez?
Mais je pense qu'il y a l'usure du pouvoir. Enfin, avec ce qu'il a traversé, je pense qu'il est très bon. Et il est très solide.
Plus seul qu'avant?
Ouais.
Parce que vous n'êtes plus là?
Non, 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 loin de là. Mais il y a eu une équipe avec qui il a gagné une campagne, avec qui il a été à l'époque ministre de l'économie. Cette équipe, elle s'est un peu éclatée, chacun a pris son envol. Et au final, de toute façon, dans tous les cas, je pense que c'est inhérent à la fonction de président de la République. Quand vous êtes président de la République, vous n'avez plus tel ou tel collaborateur préféré, ou tel ami, ou tel... Vous êtes seul.
Brut rencontre Benalla, mise en ligne aujourd'hui de l'interview sur les réseaux du Média Vidéo.
Facebook fait le ménage.
5 milliards 400 millions de faux comptes supprimés depuis le début de l'année.
Oh là là.
Oui, vous l'avez dit, Facebook fait le grand ménage. Dans son rapport sur la transparence, l'entreprise américaine explique avoir amélioré ses capacités à détecter et bloquer les créations de faux comptes ou comptes abusifs.
Mais attendez, c'est juste hallucinant. Il y a presque autant de faux comptes Facebook que ce qu'il y a d'humains sur Terre. Oui. C'est 5,4 milliards. Vous n'avez pas dit millions, vous avez dit milliards.
Non, absolument. Milliards. C'est en fait c'est des robots qui tentent de créer comme ça des comptes sur Facebook. Et il y en a des, comme ça des millions, plusieurs. Facebook dit réussir à bloquer plusieurs millions de tentatives chaque jour de création de faux comptes.
Et puis ça va devenir votre marotte, Cyril Lacarrière. Vous avez encore quelque chose à nous dire concernant Disney+.
Après le jour du lancement mardi, les problèmes techniques hier, le carton pour aujourd'hui, Disney+ revendique déjà 10 millions d'abonnés.
En une journée, en 24 heures.
Pour vous donner l'ampleur de la performance, les analystes américains prévoyaient que la plateforme de vidéo atteindrait les 8 millions de clients d'ici la fin de l'année et les 18 millions d'ici la fin 2020. Des chiffres probablement qui devraient vite être revu à la hausse.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière, à demain.
À demain.
À suivre l'infomédia du jour au programme les documentaires animaliers qui séduisent de plus en plus de chaînes, on en parle dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est l'heure Philippe de l'infomédia du jour.
Pendant longtemps, je donne une info, les animaux à la télé, ça a été ça. Et oui, vous avez sûrement reconnu le générique de 30 millions d'amis, émission culte sur les animaux, qui s'est arrêtée en juin 2016 après 40 ans d'existence, 4 décennies. Programme pionnier de la faune sur le petit écran qui passionne petits et grands aujourd'hui avec la prise de conscience écolo. C'est bon, on peut arrêter le générique, c'est bon, couchez Mabrouk. C'est encore plus vrai et avec le changement climatique, les enjeux sont encore plus forts. La vie sauvage est en danger et ça nourrit le storytelling. Le documentaire animalier Genre à part est donc devenu tendance sur des chaînes thématiques qui en ont fait leur fond de commerce. Je vais citer Animaux, Discovery, National Geographic, Planète Plus et Ushuaïa, mais également sur des généralistes comme Arte et aussi les chaînes de France Télévisions. Alors, quels sont les animaux stars du petit écran, les rois de l'audimat? Est-ce que c'est la loutre ou le requin blanc? Comment travaillent les documentaristes sur le terrain pour filmer de très près des lions en train de s'attaquer aux gnous? Qui sont les héritiers de Frédéric Rossif, maître du genre? Est-ce que les Britanniques de la BBC font toujours référence? Pour répondre à ces questions, je reçois Hélène Ganichot. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe de l'unité découverte et connaissance d'Arte. Et Alexandre Soulier. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Vous êtes producteur chez Bonne Pioche, maison de production qui possède un sacré savoir-faire dans ce domaine. Première question pour Hélène Ganichot. Arte, la chaîne culturelle, propose 2 cases quotidiennes dédiées aux animaux. Du lundi au vendredi, c'est à 15h45, puis à 19h. De quand date le déclic? Qu'est-ce qui vous a fait mettre en place une telle programmation?
Alors nous, en fait, c'est une thématique découverte, c'est-à-dire que c'est à la fois de l'histoire naturelle et à la fois de l'animalier, à peu près à 50-50, donc pas que les animaux. Et nous, c'est une case qui existe depuis très longtemps et qui fonctionne toujours bien pour nous. Et c'est une case qu'on a mis à 19h, mais effectivement, qu'on va maintenant doubler dans un bloc thématisé des 18h45. 18h15 en janvier 2020. Et en fait, on est, nous, dans une stratégie de contre-programmation. Face à la concurrence à cette heure-là, on propose un documentaire posé, serein, qui invite à la curiosité et aussi à la contemplation. Et ça marche plutôt bien pour nous.
Oui, parce qu'en face, on peut voir les Ch'tis ou Cyril Hanouna ou Yann Barthès. Alexandre Soulier, quels sont les documentaires en préparation chez Bonne Pioche? Sur quels animaux, dans quel pays, pour quel diffuseur? Si je suis bien informé, vous avez un incroyable film sur les lions, ça serait le roi lion en vrai, c'est ça le pitch?
Voilà, c'est parfaitement résumé, c'est ce qu'on appelle un... Voilà, on essaie de faire évoluer le genre aussi chez Bonne Pioche, c'est ce qui nous intéresse, parce que les modes de consommation, les envies, les tendances évoluent, et le genre de documentaire animalier est quand même l'un des plus vieux genres télévisuels de l'histoire. L'un des premiers trucs qu'on est allé filmer dès qu'on a eu les caméras, c'était les bestioles.
Ouais.
Donc voilà, même si c'est un genre très daté, c'est aussi un genre parfois un peu sous-valorisé, un peu ringard. Hein.
Ouais. Alors, comment on revisite ça?
C'est une très bonne question. Donc là, on est en train de préparer un gros film sur les lions sur lequel on bosse depuis maintenant 3 ans. Moi, je l'appelle ça un conte pour adultes parce qu'on va s'intéresser exactement à une population qui ne regarde pas forcément ce genre de film. Donc on est parti sur la vraie histoire du roi lion, puisque la vie d'un lion, telle que vous la connaissez, a été façonnée par les mythes, les légendes, les fables et surtout les Disney. Sauf que la vraie vie d'un lion dans la nature, elle est brutale, elle est courte, elle est sanglante et elle sent la poussière, parfois, souvent. Donc voilà, on a travaillé avec un réalisateur qui a shooté pendant une dizaine d'années dans un coin perdu de Tanzanie. On a un étalonnage, c'est-à-dire qu'on travaille les couleurs de façon très particulière avec une accroche graphique très visuelle. On a une musique composée par Laurent Garnier qui apporte donc une tonalité très actuelle. Et ce film devrait être, si tout va bien, raconté par Joey Starr, ce qui devrait donner également une dimension narrative assez exceptionnelle, avec une narration à la première personne.
Vous connaissez le surnom de Joey Starr ?
Jaguar, bien sûr. Ouais.
Voilà, exactement.
Là, on va lui mettre une crinière. Ouais. Ouais.
Alors, vous dites qu'il y a du sang, il y a de la poussière. Ça veut dire que ce n'est pas tout public, alors, le film
absolument
que vous allez faire ?
Absolument pas, et c'est très assumé. Il a été pensé pour ça. On s'intéresse et on cible typiquement un public mature et un public généralement, puisque voilà, c'est aussi ce qui nous a intéressé dans le film, dans la narration, avec des vrais leviers de fiction à la Game of Thrones, puisqu'on a des infanticides, des assassinats et une vraie dramaturgie.
Ouais. Ça sera pour quelle chaîne ?
Et c'est pour Canal+, et on réfléchit à le basculer au cinéma.
Vous avez fait un casting ?
Pas du tout. Non, c'est souvent la réalité quand on prend le temps de l'observer, quand on a les moyens de l'observer et quand on a voilà, la patience et les accès et autres. Parfois, nous révèle des choses d'une dramaturgie absolue et c'est du Shakespeare en temps réel. Ouais.
Vous savez bien le vendre, Hélène Ganichot, c'est séduisant ce qu'il raconte. Est-ce que ce genre de film vous intéresse pour Arte ? Est-ce que c'est le genre de film que vous recherchez ?
Non, mais pas parce que c'est pas bien. Juste parce que c'est pas ça qu'on fait. Nous, ouais. Non, là, il y a une prise de position très claire et voilà, nous, on fait pas ça. Nous, chez Arte, notre particularité, je pense, quand on fait des films animaliers ou découvertes, puisque c'est cette honnêteté-là, c'est une lecture assez, avec un prisme assez scientifique.
Ouais.
On essaie de provoquer l'émerveillement par la qualité de l'image et la rencontre des animaux, mais aussi par la stimulation de la curiosité. Donc, on décode le monde à travers la science.
On a connu des films contemplatifs, puis comportementaux, scientifiques. Est-ce que maintenant, il faut une résonance écologique ?
Alors oui, c'est vrai que c'est une tendance. C'est quelque chose qu'avant, les diffuseurs ne se permettaient pas trop parce qu'on avait peur de perdre notre audimat.
Il y avait toujours la petite 30 secondes à la fin, mais tout ce monde est bien magnifique, mais combien de temps va-t-il durer ?
Voilà.
Mais il y avait toujours ça avant. Toujours. Ça,
voilà. Et maintenant, on n'a plus peur parce que je pense que les gens, déjà, on a besoin de nous, on est responsables pour opérer cette prise de conscience. Et c'est en plus très important et c'est une demande. Donc à chaque, même si on a un documentaire essentiellement sur le comportement animal, on parlera de la conservation de l'animal, de l'état de son habitat et il y aura toujours un discours environnemental. Et chez Arte, c'est encore plus important. Et donc on veut parler du monde tel qu'il est en fait. Sans être anxiogène, mais on veut parler du vrai monde.
Parce qu'en général, les lions, ça mange de la viande. Quels sont les animaux préférés ? On vous dit ça juste après ça.
Oui, le documentaire animalier est devenu tendance. Alors pourquoi ? On en parle ce matin dans Culture Média et on y revient avec vos invités, Philippe Vandel, dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans l'info média du jour, on parle du documentaire animalier, un genre à part qui séduit de plus en plus de chaînes. On en parle ce matin, Philippe, avec vos invités, Alexandre Soulier, qui est producteur de documentaires chez Bonne Pioche, et Hélène Ganichot, directrice adjointe de l'unité découverte et connaissance d'Arte France.
Hélène Ganichot, est-ce qu'il y a des animaux qui plaisent plus au public ? Est-ce qu'il y a des animaux répulsifs et d'autres attractifs ?
Oui, alors chez Arte, c'est un peu difficile de sortir une tendance parce qu'on n'est pas non plus une chaîne spécialisée animalier. Donc sur notre échantillon, on ne peut pas. Mais quand on fait un casting d'animal, on veille toujours à ce qui est un animal vedette, icône ou un peu attachant. Et ça tombe souvent chez les mammifères, ouais. Concrètement, les félins, les primates ou les cétacés. Après, hors de ces catégories, chez les Américains, ils ont la Shark Week, donc la semaine du requin, qui existe depuis 30 ans et qui est une semaine de programmation exclusive de requins. Donc le requin marche très bien.
Et comment ça s'explique ça ? Parce qu'il n'y a pas de poils. J'ai lu, il y avait un papier, il y avait un producteur qui disait il faut qu'il y ait du poil. Ce qui intéresse, c'est les grands mammifères.
Voilà,
le requin n'a pas de poils.
Le
il ne fait pas de bruit, bien sûr.
Et le requin, c'est Jaws, quoi.
Ça fait peur.
Bien sûr. Et les anglo-saxons ont deux expressions, c'est sharks always hit, les requins cartonnent toujours, et birds don't rate, et les oiseaux, c'est la plantade assurée.
Pour les documentaires.
C'est pour les... Absolument.
Alexandre Soulier, justement, vous aviez réalisé un film sur les requins diffusé sur Canal+, en prime time, s'il vous plaît. La preuve que c'est bankable. On va entendre un extrait et on en parle.
Ils peuplent les océans depuis 450 millions d'années. Ils sont la clé de voûte de l'équilibre de notre planète. Mais ils sont sur le point de disparaître. 100 millions de requins sont pêchés chaque année dans le monde. Vous allez découvrir le véritable visage du plus mythique des prédateurs marins et comment il est encore possible de changer les choses. Car de l'animal que nous craignons le plus dépend notre survie.
Ça fait un peu peur quand même.
Rien qu'avec le son, sans l'image, ça fait un peu peur. Voilà. On voit qu'il y a du travail de son presque du sound design. Ouais. Et là, vous en tournez un autre.
Absolument. Là, on commence une très grosse prod. Donc ça, c'est un gros prime time pour France 2, pour France Télévisions, qui a le courage de maintenant soutenir le savoir-faire français, qui a une vraie French Touch dans le documentaire Nature, qu'on se le dise. La compétition avec nos camarades anglo-saxons est
rude. On va en parler à la fin, mais d'abord, c'est quoi votre histoire de requin ?
Donc là, l'idée, justement, le cœur de ce film, comme c'était un petit peu le cœur aussi du précédent, c'est de réconcilier en fait nos deux espèces. On vit sur un malentendu depuis le film de Spielberg, qui a quand même
les dents de la mer.
Brouillé les lignes, vraiment. Et ce qui se passe est assez dramatique du point de vue de cette espèce. Donc là, l'idée, c'est qu'on va suivre trois femelles. On va essayer de créer un lien, une empathie pour ces animaux. On va suivre trois femelles, trois future maman, une requin blanc, une requin marteau et une requin baleine qui s'apprête à parcourir les océans pour donner la vie, ce qui est quelque chose de très universel. Et on va croiser ces trois itinéraires pendant lesquels elles vont évidemment rencontrer des dangers, des obstacles, des humains.
Pourquoi trois femelles ? C'est MeToo qui est passé par là ?
Parce que c'est le premier documentaire, exactement, hashtag MeToo, et surtout parce que je me suis... on s'est dit que c'était ce qu'il y avait de plus universel, et a priori...
Sauf qu'il y avait parfois des erreurs scientifiques énormes. Hélène Ganichaud, autrefois, les documentaires sur les lions, on voyait d'abord les lions. On voyait plus les lions que les lionnes. On voyait plus les tigres que les tigresses.
Ouais.
Et ça a changé. Vous ne l'avez pas remarqué sur Arte ?
Non, pas spécialement. Alors oui, mais c'est vrai, dans la place de la lionne par rapport au lion ?
Non, dans la place de la lionne dans le documentaire. Autrefois, on voyait les garçons. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, on voyait très, très peu.
Oui, mais on racontait quand même que c'était la lionne qui faisait le travail. D'ailleurs, ça était l'erreur documentaire. Parce qu'en fait, quand elles sont en groupe, enfin, quand ils sont en groupe, comment on dit un groupe de lions ?
J'ai une troupe, un clan.
Ouais, en français, je ne sais pas. Bref. On a un lion, une femelle, c'est vrai que c'est la femelle qui va chasser et le mâle qui défend le territoire, mais il y a aussi beaucoup de mâles qui errent en recherche d'un clan et d'une femelle, et eux, ils chassent quand la femelle n'est pas là. Et ça, on n'en parlait pas beaucoup avant.
On va parler de technologie. Est-ce que les progrès technologiques ont permis de faire évoluer le genre animalier ? Est-ce que vous l'avez remarqué dans les films que vous, vous commandez,
en
que vous
animalier, achetez ? C'est essentiellement la technologie qui fait évoluer les écritures, en fait. C'est, là, concrètement, il y a eu trois avancées qui ont tout changé. C'est l'apparition des drones, donc au sens littéral, un changement de perspective. Depuis même un ou deux ans, des drones très silencieux, donc on peut aller vraiment filmer au-dessus des animaux sans les gêner. Il y a aussi l'apparition de caméras stabilisées qui permettent d'être dans des prises de vue beaucoup plus immersives. Donc nous, on va diffuser un documentaire sur les lémuriens et on peut, avec une caméra à la main, marcher avec eux de manière très stable, donc très intimiste. Et la troisième évolution, c'est des caméras de faible...
qui fonctionne
à basse lumière et on peut filmer, en gros là c'est tout un monde entier qui s'ouvre de la nuit et filmer des comportements qu'on n'a jamais vus. Donc là c'est un énorme bond en avant. Et donc c'est dans ce documentaire-là en fait souvent que les avancées technologiques sont les premières et reprises derrière. Mais c'est ce qui fait avancer ce genre-là.
Et on va l'entendre, le 25 novembre prochain sur Arte, on pourra voir à 19h une équipe de plongeurs immergée dans un clan de cétacés.
Curieux de tout, Roméo abandonne son jeu et vient interpeller le caméraman. Il émet une série de crépitements sonores très rapides, dont on ignore encore aujourd'hui la signification. Les cachalots émettent une grande variété de claquements. Ils sont passés maîtres dans l'art d'utiliser les sons, qui se propagent 5 fois mieux dans l'eau que dans l'air.
Les premiers films animaliers sous la mer, c'était le monde du silence. Donc maintenant, on voit que non, que ça a vraiment totalement évolué. Ça coûte plus cher à produire qu'un doc traditionnel. Et est-ce que ça rapporte davantage ou moins bien ? Est-ce que c'est rentable, le doc animalier ? Question à tous les deux. Est-ce que ça coûte cher ? Est-ce que c'est rentable ?
Ah oui, ça coûte cher. En partie parce qu'il y a beaucoup de technologies, que c'est souvent des contrées lointaines et difficiles d'accès. Ça coûte cher à produire. Et nous, sur Arte, on veut des programme très ambitieux, donc il faut du savoir-faire et des moyens, et souvent beaucoup de producteurs ensemble, mais je vais laisser Alex parler.
Alexandre Soulier, est-ce que ça rapporte ?
C'est très variable. C'est très variable, puisque par définition, on ne maîtrise pas grand-chose, donc on essaye de se back-upper au maximum en amont.
Mais se back-upper, c'est-à-dire se couvrir.
Se couvrir, travailler avec évidemment tout un réseau local qui permet de sécuriser ce qui peut l'être, mais par définition.
Contrairement, par exemple, si vous faisiez la fiction, Louis la Brocante, c'est difficile à vendre en Thaïlande. Tandis que ça, ce documentaire, vous pouvez le vendre dans tous les pays.
On ne maîtrise rien. Mais c'est un genre qui s'exporte. C'est un des rares genres documentaires français qui s'exporte bien et surtout qui dure dans le temps.
Est-ce que la BBC, vous parliez du savoir-faire français, d'une French Touch, est-ce que la BBC reste la référence ou maintenant on n'a pas à rougir de ce qui se fait ? Je vais te poser la question plutôt, Hélène. Est-ce que les prods françaises sont au niveau international ?
Oui. On n'a pas à rougir, c'est sûr. Après, je pense que au niveau technologique, etc., et peut-être utilisation, ils ont plus de moyens. C'est-à-dire que pour une série qui vient, il y a une série qui va bientôt être diffusée des Anglais, de la BBC, où ils avaient 200 jours de tournage par heure. Donc il y a des moyens phénoménaux derrière qui parfois sont difficiles à matcher. Après, en savoir-faire, capacité technique et storytelling, donc raconter une histoire, on n'a pas à rougir. Mais pour des raisons économiques évidentes, parfois ils ont encore un peu de...
Merci beaucoup. On avait un son à vous passer. Est-ce que vous sauriez reconnaître cet animal tous les deux ? C'est pas une question piège, c'est l'une des stars des documentaires animaliers. Je ne sais même pas qui faisait du bruit, c'est le suricate.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà. Et ben vous savez quoi, il vous a repéré. Merci d'avoir été avec nous, Hélène Ganichot. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe de l'unité découverte et connaissances d'Arte France. Et merci Alexandre Soulier, producteur associé chez Bonne Pioche. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
C'est Benoît Delépine qui est notre prochain invité. Il vient nous parler d'un ouvrage essentiel, le gros livre, l'album Souvenirs de Groland. Et c'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et on est très content dans Culture Média, Philippe, d'accueillir Benoît Delépine.
Ah oui, vraiment. Bonjour Benoît Delépine.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste avec Gustave Kervern, Mammouth avec Depardieu, Louise Michel avec Yolande Moreau, je ne vais pas tout citer, mais vous êtes d'abord connu du grand public comme auteur de la grande époque des Guignols et surtout pour votre personnage de Michael Cull dans la bande de Jules Dormoustique à Groland. Et justement, actu, vous êtes co-auteur de fait de ce livre, gros livre, l'album Souvenirs de Groland. Et une fois n'est pas coutume, pour commencer, on va entendre la fin. Depuis 25 ans, chaque épisode de Groland se termine de la même manière avec Papy Trompette.
C'est la fête.
C'était qui ce Papy Trompette?
Non mais nous, faut bien dire que Groland, on a su très tard qu'on était filmé en fait. Ouais. Et donc au début, on faisait nos sketchs dans la campagne comme ça, ben, dans le nord de Paris. Et ouais, effectivement, dans un des villages, il y a eu ce papy qu'on a croisé. Et le réalisateur de l'époque, Benoît Jeunhomme, a filmé ce mec en train de dire « c'est la fête !» et tout. Et puis, mais après, on l'a jamais retrouvé quoi en fait.
S'il nous écoute, alors officiellement ce livre, c'est son album Souvenir, découvert par ses héritiers dans sa cave, caché sous des bouteilles vides d'alcool de pneus.
Ah oui.
Ça se boit l'alcool de pneus?
Ah bah c'est difficile à digérer, mais non, ça passe, ça passe.
Pour qui ne connaîtrait pas, comment vous définiriez Groland, c'est quoi?
Ah, Groland, c'est le pays de la liberté, de la fantaisie. Enfin, on pourrait, c'est à peu près l'équivalent de la Belgique, quoi, on va dire. Mais
ah
en
oui.
France.
Alors moi, je pensais que c'était à la fois parce que ça vient de Jules Dormoustique qui a travaillé longtemps à Monaco.
Ah oui, oui, bien sûr.
Qui
Monaco,
à la fois, c'est à la fois libre et pas libre. C'est à la fois une démocratie, une dictature. Je parle pas de Monaco, je parle de Groland. C'est à la fois la ville et la campagne. C'est à la fois moderne et totalement arriéré.
Bien sûr.
En 25 ans, comment Groland a évolué?
Pas du
à la
tout.
Fois le pays
absolument pas.
Et l'émission.
Pas évolué du tout. C'est ça le grand secret. Mais bon, toujours pas, ni à la mode, ni. Enfin bon, bref.
Quand même,
mais...
il y a des smartphones à Groland.
Ah oui, oui.
Il y a quand même le président qui circule en bus nucléaire.
Ah oui, mais voilà, en bus nucléaire, mais on est toujours à la pointe, bien sûr.
Et il y a les voitures pour lutter contre le renchérissement de l'essence qui marche haut.
Qui marche toujours.
C'est dans le livre.
Sperme.
Voilà, bon. C'est dans le livre. Alors on revoit dans ce livre, dans cet énorme ouvrage, c'est publié co-édité par Canal+ et les éditions Hugo de Singe, gros album. On voit les visuels de ce que vous appelez la cacachita. Tout d'abord, c'est quoi la cacachita?
Bah, c'est l'endroit où s'enregistraient toutes les émissions télé, mais toujours d'ailleurs.
Ça fait référence à la Cinecittà, qui est la grande cité du cinéma.
C'est une énorme cité pour faire du caca. Et nous, on était là-dedans, mais on était très bien. On se roulait dans cette chaleur.
Ouais. Comment vous avez choisi les textes, les extraits? Comment vous avez fait ce livre? Parce qu'il y a une telle profusion.
Bah, c'est-à-dire que l'air de rien, depuis 27 ans maintenant, on a écrit énormément de sketchs. Hein, et je crois qu'en tout, ça doit représenter à peu près 3 jours de programme.
Mon Dieu.
Tout ce qu'on a pu trouver, tourner, etc. Donc il a fallu faire des choix.
Bien sûr. Et c'était ma question. Hein. C'était comment vous avez choisi?
Enfin, c'est entre nous. On a choisi comme ça. Et les deux co-auteurs qui s'appellent Éric Martin et Franck Benoît, ainsi que le directeur artistique Marc Brucker, c'est des vrais fans de... d'Harakiri, quoi. Il y a même Marc Brucker qui fait régulièrement des expos photos avec des photos de la grande époque Harakiri. Et je pense que c'est plus dans ce...
On pense parfois à Harakiri, voilà, parfois il y a des conseils, il y a des fiches cuisine, ça rappelle les fiches de Choron.
Alors eux, ils ont plutôt choisi tout ce pan de notre culture.
Il y a des trucs qui sont très harakiresques, puisque vous en parlez, il y a des sketchs cultes, mais il y a la mobilette d'appartement, c'est ce que c'est la mobilette d'appartement. C'est les gars qui veulent faire quelque chose mais qui n'aiment pas le sport, donc ça remplace le vélo d'appartement.
Alors après, il y a un petit problème avec l'essence de temps, quoi. Ah ouais.
Plusieurs pages évidemment consacrées à Michael Cull, qui est votre personnage. personnage que vous incarnez, c'est un grand reporter, le gars qui est toujours sur le terrain, mais il est pleutre, il est cynique, il est prêt à toutes les compromissions et pas toujours rigoureux sur l'info. Quand vous avez démarré, vous aviez un modèle, vous pensiez à qui ? Bah, c'était écoute, les gars de CNN, à qui vous pensiez ?
Ouais, c'est ça, c'était plutôt ça. C'était les gens qui sont soi-disant sur le front, mais plus dans le grand hôtel, le plus proche, quoi. Donc voilà. Mais on est un peu comme les personnages des vrais journalistes. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je prenais des risques en tournant ces sketchs-là, malgré tout, parce qu'on faisait ça avec les moyens du bord. Sur quand même retrouver avec des explosifs dans le front, des vrais.
Ah oui,
parce qu'on savait pas qu'il y avait des effets spéciaux potentiels, quoi. Donc j'ai échappé plusieurs fois à des gros soucis, personnellement. Mais on est comme les vrais journalistes, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant que je suis vieux, je me retrouve vieil éditorialiste sur le plateau de Groland en train d'être animateur du plateau des Grigous. Donc on suit le même destin que les vrais.
Michael Kull, il s'est pris 36 balles dans le buffet, 17 explosions, un lynchage, 2 accidents de la route, 19 agressions physiques, 1 empoisonnement et 32 maladies sexuellement transmissibles. Et il est toujours avec nous, vous restez, vous bougez pas.
Benoît Delépine est notre invité ce matin dans Culture Média, joie et bonne humeur, pour parler de l'album Souvenir de Groland, le gros livre. On y revient dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Gros livre, l'album Souvenir de Groland, un album souvenir plein de poésie, légué par les héritiers de Papy Trompette.
C'est la fête.
Aux Archives Nationales Grolandaises, livre coédité par Canal Plus et les éditions Hugo de Singe, dont nous parle notre invité Benoît Delépine ce matin, Philippe Vandel.
Alors Benoît, dans le livre, on voit des photos, des captures d'écran de sketchs anciens, comme par exemple le docteur Pi qui explique aux femmes comment se mettre de la crème solaire. Et on voit à l'image deux femmes nues qui se tartinent mutuellement de crème. Est-ce qu'un sketch comme ça pourrait passer encore aujourd'hui? Je dois dire que Groland, ça a 27 ans d'existence.
Avant l'arrivée d'un bel étalon noir, hein, tu oublies d'en parler.
Oui.
Mais oui, bah, je ne sais pas, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a réussi à faire notre espèce de bulle, c'est-à-dire les Grolandais, hein, parce qu'il faut voir que c'est une espèce de réseau de résistance globale en France. Dans n'importe quel petit village de France, il y a forcément un Grolandais pour venir nous porter secours, quoi qu'il arrive.
Et il y a un autocollant derrière la voiture,
voilà,
GRD.
Mais en tout cas, les Grolandais, ils sont extraordinaires parce qu'ils viennent nous voir, déjà c'est une démarche. Et par exemple, si on prenait n'importe...
Mais moi, je ne vous parlais pas de ça du tout.
Non, mais si, mais si on prenait ce sketch-là, par exemple, on le prend et on se dit « Ah bah tiens, on va le passer sur TF1, par exemple. » On le passe sur TF1, mais c'est l'enfer. C'est-à-dire, on a 42 procès, on est viré. Alors que là, c'est tous les gens qui regardent l'émission, il n'y en a pas un, ça ne lui viendrait même pas à l'idée de porter plainte, en fait. Donc depuis, on est dans cette espèce de bulle de liberté qu'on a construit.
C'est un album souvenir, mais vous êtes toujours à l'antenne.
Ouais.
Vous vous souvenez du présent.
Mais non, mais on construit notre tombe de notre présent.
Attendez, vous n'êtes pas mort.
Mais la mort ne veut pas de nous.
Ouais. Avec le Canal Football Club, Groland, c'est la seule émission emblématique qui a survécu à l'arrivée de Vincent Bolloré à Canal+. Comment ça se passe avec lui ?
Aucun problème, en tout cas. On fait régulièrement des sketchs sur Vincent Bolloré.
Et ça passe.
Mais ça passe. Même lui doit peut-être être... Non, on est très fond, Grolandais.
Vous l'avez déjà rencontré ou jamais ?
Non, il vaut mieux pas de toute façon. Hein,
ça... Pourquoi ? Vous venez de Canal+, à Canal, on rencontrait les patrons. On connaissait Alain Degreffe, on connaissait Pierre Lescure, on se tutoyait, on les voyait à la cantine.
C'est pas tellement ça, mais je te dirais aussi qu'à l'époque, on refusait, par exemple, de rencontrer les hommes politiques, etc.
C'est vrai, à l'époque
patrons,
des Guignols.
Etc.
L'époque des Guignols.
Donc, c'était surtout. Mais en plus, c'était surtout Degreffe qu'on voyait, parce que même Lescure, c'était pour nous, on s'en méfie un peu. Donc. Non, on préfère pas rencontrer les gens trop puissants, ça peut nous porter préjudice.
Benoît Delépine, vous qui êtes très critique, le mot est faible à l'égard de la mondialisation, vous avez remarqué que le livre de Groland n'a pas été imprimé en France, même pas en Europe, mais en Chine.
Alors là, non, mais là c'est d'arnaque.
Je vous le dis, voilà.
Je sais. Et alors qu'on a choisi notre éditeur parce qu'il nous a garanti que ça serait imprimé en France.
C'est pas vrai.
On s'est encore fait avoir, comme d'habitude. Non, et en plus, je lui dis, ils ont complètement oublié, ils auraient dû mettre un mot en chinois à l'intérieur de l'enveloppe, parce qu'il y a une enveloppe avec l'autocollant, les papiers grolandais, le permis de marcher.
Le kit de survie.
Ils auraient dû glisser un petit mot en chinois marqué au secours.
Votre projet, c'est un film avec votre complice Gustave Carverne, casting assez incroyable, Yolande Moreau, Benoît Poulvorde, Denis Podalydès, mais également les deux comédiennes que tout le monde s'arrache en ce moment, Corinne Maziero, Capitaine Marlowe, et l'humoriste Blanche Gardin. Par quel tour de force, comment vous y arrivez? Parce que c'est pas avec l'argent.
Ah bah non, je sais pas, ça fait partie aussi de la philosophie grolandaise, c'est-à-dire que c'est des gens qui, malgré tout, nous aiment bien depuis longtemps, donc quand on les rencontre, elles ont plutôt un a priori positif, quoi. Je tiens à dire que, bien sûr, tous les gens que vous venez de citer participent au film, mais les trois personnages principaux, c'est vraiment Blanche Gardin, Corinne Maziero et Denis Podalydès. Les autres sont venus nous faire un petit coucou sur le tournage, mais ils sont extraordinaires.
Pour situer, votre société de production s'appelle No Money Production. Si je suis bien informé.
Il y a Sylvie Piala qui est venue nous donner un coup de main quand même.
Effacer l'historique, ce sera le titre.
Voilà.
C'est quoi? C'est les Gilets jaunes avant l'heure?
Ah ben, c'est les Gilets jaunes après l'heure, parce qu'on avait écrit un premier scénario, on avait deviné que les Gilets jaunes allaient arriver, et tac, ben après on s'est dit, si on fait vraiment ce film-là, on va nous traiter de suiveurs et tout. Ouais. Donc là, les trois héros, ce sont des voisins de lotissement, mais qui sont des anciens Gilets jaunes, et qui ont des gros problèmes avec Internet, et qui décident d'aller attaquer les GAFA. C'est-à-dire que Blanche Gardin, elle va carrément, en Californie, attaquer Apple. C'est quand même... je vous laisse...
Formidable. Ça sort quand?
Je pense en avril de l'année prochaine, si tout va bien.
Merci beaucoup, Bona de l'Aipine. Je rappelle, Gros Livre. Oh là, j'adore entendre cette musique. Gros Livre en coédition, Hugo de Singe qui a menti sur l'imprimerie.
Oui.
Et Canal Plus Édition. Merci d'avoir été avec nous en direct.
À suivre notre heure culture, mais juste avant, place aux digressions des rats d'auteur, le rendez-vous d'humour de Culture Média, avec le duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston-Dreyfus.
Gilles Gaston-Dreyfus, Gilles.GastonDreyfus.
Toi, c'est Stéphane de Groot.
Toi, tu dis de Groot.
Une vraie question. En France, on dit de Groot.
Oui.
Donc,
qu'est-ce que vous disiez, du coup?
Bah, du coup, je...
Rien. Nous sommes jeudi. Bonjour, Gilles. Je suis assez content de vous revoir.
Mais moi aussi. Mais comment allez-vous? C'est une vraie question.
Mais comment je vais? Quelque part ou
quoi? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que votre vie va bien? Comment allez-vous?
Aujourd'hui, je vais bien. Est-ce que vous prenez parfois des médicaments pour aller mieux?
Je bois du vin, je bois du bon vin. Vous en prenez?
Ça, on peut pas en parler à l'antenne, évidemment.
Vous buvez pas énormément, vous buvez du vin.
Si vous dites vous buvez du vin, alors ça veut dire que j'en bois énormément. Mais non, si vous me dites que vous buvez du vin, tout de suite on comprend que je bois pas trop de vin. C'est entre les deux, je bois du vin.
On sait jamais jusqu'où on doit aller dans la franchise.
On parlait de la FIAC. Vous êtes plutôt photo ou peinture?
Non, je suis pas très photo. Je suis pas fou de la photo d'art.
Vous préférez les photos de mariage?
À Perpignan, par exemple.
Il y a la visa pour l'image. Il faut tout vous dire.
Vous connaissez?
Je viens de vous le dire.
Vous auriez pu.
J'aurais pu quoi? Donnez-nous un photographe que vous aimez en particulier.
Je peux pas vous dire de nom.
Pardon? Il n'y a pas un nom qui vous a marqué?
En photo?
On vient parler de quoi? On vient pas parler de Jokari. On parle de photo.
Non, mais non, non.
Quoi, non, non?
Non, non, bah si.
C'est non, non ou
non,
assis.
Non, si, parce que c'est celui.
Vous radotez en fait.
Il a fait une photo magnifique.
Une.
Patrick Chauvin, c'est pas Chauvin, c'est.
Chapin Charin Chavrin.
Ingrid Chauvin. En Syrie là-bas.
C'est Ingrid Chauvin, t'allais faire des photos en Syrie.
Non, 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 une photo magnifique, c'est très impressionnant.
Pourquoi ça serait pas Ingrid Chauvin?
Parce qu'elle peint.
Ingrid Chauvin peint.
Chauvin peint.
Chauvin peint.
C'est vous qui relevez ça.
On était sur la FIAC. Vous faites de la photo?
Oui. Je m'assois, j'achète régulièrement
des. Essayez sur ce que je dis, c'est pas grave.
Des petits appareils photo.
Vous avez dit, j'ai un appareil, mais je m'assieds dessus.
M'assois pas dessus.
Mais pourquoi vous l'avez dit ça? C'est quand même curieux comme angle de prise de vue.
Non, je ne m'assois pas sur mon appareil photo.
Vous utilisez de l'argentique, du numérique?
Du numérique essentiellement. Je travaille les angles. Tac, 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 tac.
Voilà. Tac, tac, tac.
Vous savez qu'il y a une autre manifestation qui s'appelle les galeristes, que je ne conseille pas d'y aller puisque c'est fermé.
On n'est pas dans un agenda culturel, ça ne sert à rien de renseigner.
Ce sera ouvert, mais un jour ce sera rouvert.
C'est dommage, puisqu'on aurait pu parler de plein de trucs sur l'art. Faire la différence entre l'art moderne et contemporain, ça on aurait pu faire.
Effectivement. On aurait pu parler de l'argent dans l'art.
De l'art dans l'argent, l'argenterie. Et puis rien, en fait, il n'y a rien qui est ressorti.
Non, il n'y a rien. On en parle un peu.
On parle un peu demain alors.
Voilà.
On termine la semaine là-dessus.
C'était vendredi demain.
En général, le vendredi termine toujours la semaine.
Très bien.
À demain, Gilles.
À demain, Stéphane.
Pour cette dernière journée de la semaine.
C'était Les Rats d'auteur avec Stéphane de Groot et Gilles Gaston-Dreyfus. Feuilleton quotidien que vous retrouverez demain à 9h55 et en podcast sur Europe1.fr.
Europe 1 Culture Média.
Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture, on va recevoir le comédien Laurent Deutsch pour son livre romanesque La folle aventure de la langue française qui devient un spectacle sur la scène du Théâtre de Paris. Et puis, dans les indispensables, on va parler d'un jeu vidéo. Le héros est un célèbre plombier, il porte une casquette, une salopette et une moustache. Mais ce n'est pas Mario, alors qui est-ce? Réponse tout à l'heure avec Clément Le Saffre. Et puis, de la musique, vous connaissez Louis Chédid, vous connaissez M. Eh bien, dans la famille Chédid, Angèle Châtelier, vous présentez la fille, elle s'appelle Nash.